Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de la programmation La Cinémathèque idéale des banlieues du monde. On l'a dit en plaisantant, deuxième mi-temps après la première, le 28 avril, où il a été question de fête de lutte et de solidarité en banlieue, et sous l'intitulé « L'utopie à nos portes », hein, c'est le fait d'habiter ces espaces, hein, qui va être mis en lumière. Donc je remercie beaucoup Cinéarchive, hein, qui a accueilli la proposition avec beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup de talent aussi dans leur programmation. Marion Boulestraud, ici présente, que vous pouvez accueillir. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais quand même. Soyez polis. Et puis Annabelle Bonaventure qui est là-bas, qui se fait discrète. Hein, donc, Aventure, pardon. Voilà, je vais rajouter. Et puis on accueille aussi Cécile Dumas pour cette séance, une voisine, hein, de Mémoire filmique d'Île-de-France, puisque un des films... mais Marion va nous en parler, est issu du fonds Mémoire filmique d'Île-de-France. Tu nous présenteras aussi cette institution.
Allons-y.
C'est à toi, Marion.
Merci. Alors, je ne sais pas si parmi vous, des personnes étaient déjà dans la salle il y a deux semaines pour notre première séance. Bon, donc en tout cas, pour les autres, oui, je vois madame, mais pour les autres, je vais refaire quand même une très rapide présentation de Cinéarchive. Donc Cinéarchive, c'est une association qui conserve le fonds audiovisuel du Parti communiste français et du mouvement ouvrier. Il y a de l'écho. Parce qu'en effet, le Parti communiste et différentes organisations du mouvement ouvrier se sont très vite emparés du cinéma comme outil pour leur propagande. Dès la fin des années 20, mais vraiment de façon très ample, à partir du Front populaire, donc du milieu des années 30. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Cinéarchive, on conserve plusieurs centaines de films, on dépasse la barre du millier et de très loin, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a 900 films qui sont identifiés et numérisés, que vous pouvez découvrir en ligne sur notre site, et qu'on essaye de valoriser d'autres manières, par l'organisation de projections, par l'édition de coffrets DVD, enfin voilà, il y a tout un large panel de façons de découvrir ces films. Et donc, toute cette filmographie, vraiment unique, il n'y a pas d'autres partis politiques, toutes tendances confondues, qui auraient un fonds de cette manière. Ce fonds donc permet d'aborder de nombreuses thématiques, de nombreuses périodes historiques également, donc le Front populaire, la guerre d'Espagne, les différents conflits des guerres d'indépendance, essentiellement la guerre d'Indochine, par exemple, pour ce qui concerne le fonds qu'on conserve, mais également, évidemment, des grands moments de la vie du mouvement ouvrier, donc les 1er mai, les fêtes de l'humanité, etc., etc. Mais en dehors de ces grands moments, on va dire, qui sont fondateurs constitutifs de l'histoire d'une organisation politique, on trouve aussi des thématiques plus transversales, et notamment la vie de la société, le logement, qui constitue quand même une part très importante de ce fonds. Un mot aussi pour dire que donc, ce fonds, qui initialement est constitué de films qui ont été initialement produits et distribués par le Parti communiste et d'autres organisations proches, ce fonds continue aujourd'hui de s'enrichir avec des collectes, avec des films amateurs, par exemple, qui nous sont déposés. Donc on lancera régulièrement des appels à collecte auprès de militants qui auraient filmé, par exemple, des occupations d'usines, des voyages dans les pays de l'Est. Voilà, donc on lance toujours un appel quand on fait des séances, parce que c'est souvent l'occasion de récolter de nouveaux films. Et on a également quelques cinéastes professionnels qui choisissent de déposer leurs films à Cinéarchive. Le dernier en date étant... un fonds très important, puisque c'est celui du réalisateur Medondo, qui est avant tout connu comme un comédien de doublage. Vous le connaissez sans doute, enfin c'est évident que vous connaissez sa voix, puisque c'était le doubleur attitré de Morgan Freeman et d'Eddie Murphy. Mais par ailleurs, cette profession de comédien de doublage qu'il exerçait avec talent lui permettait de financer la production et la réalisation de films qui sont des films politiques, vraiment, avec une très forte charge militante, et vraiment formellement très intéressant et vraiment unique. Voilà, et donc Medondo fait partie de ces cinéastes qui nous ont déposé leurs films. Bon, je ne m'étends pas plus sur Cinéarchives, mais en tout cas, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre lors de la discussion à la fin. Donc, pour revenir à la carte blanche d'aujourd'hui, je remercie à nouveau Arnaud pour l'invitation. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, c'est le deuxième temps de cette carte blanche. Il y a deux semaines, Daniel Tartakovsky et Tanguy Perron avaient présenté un programme qui montrait la banlieue comme lieu d'accueil et de fraternité. Donc, on avait vu cette banlieue qui accueille aussi bien les fêtes de l'humanité que des congrès, par exemple, pour soutenir les Espagnols antifranquistes. Ou qui accueillait également les enfants de mineurs, par exemple, lors des grandes grèves des mineurs. Ça, c'était la thématique qu'on avait choisie la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines. Ce soir, donc, on a intitulé la séance « L'utopie à nos portes », parce que la banlieue, c'est en effet un lieu symbolique, mais pas que, majeur, pour les organisations du mouvement ouvrier. D'une part, c'est là que réside la classe ouvrière dans son ensemble, puisque elle a quand même assez rapidement été chassée du centre des villes par la cherté des loyers. C'est en banlieue également que sont implantées les usines, enfin les centres de travail, et c'est là aussi, et surtout, que des maires communistes sont élus. Et donc, pendant plusieurs décennies, il y a une véritable contre-culture communiste qui s'installe en banlieue. Et donc, c'est pour ça, on parle d'utopie, parce que c'est vraiment la promesse d'un autre monde à bâtir, peut-être. Donc, le parcours de ce soir va des années 30 aux années 70, et il met en jeu les tensions entre justement cette banlieue rêvée et la réalité parfois, la réalité qui met à l'épreuve cette utopie. Donc on déroulera la séance en trois temps. Vous verrez d'abord des extraits de films dans un premier temps qui poseront les enjeux politiques et qui permettront de présenter un peu de quelle utopie on parle, au singulier ou au pluriel d'ailleurs. La deuxième partie, en fait, ce sera juste un film sur une cité modèle et pas n'importe laquelle, puisque ce sera un film sur Ivry. Et Ivry a vraiment un statut très particulier dans l'histoire de la banlieue et dans l'histoire du communisme, puisque c'était Ivry, ville de Maurice Thorez, le dirigeant historique du Parti communiste. C'est vraiment la capitale du communisme français. Donc ce film, sur lequel il y aura beaucoup à dire, occupera toute la partie centrale. Et enfin, on verra donc dans la troisième partie, les années 70, et là vraiment la mutation de la banlieue. Donc il y aura un film sur les transformations de Bobigny, et également un film donc aimablement prêté par Mémoire Filmique sur le chantier de construction du périph. Un mot très rapide sur Mémoire Filmique, mais là aussi on en reparlera beaucoup plus en détail plus tard si vous le voulez bien. Donc Mémoire Filmique, c'est une association qui a été créée en 2019, donc très récente, et qui a pour but de conserver, enfin de collecter d'abord, de sauvegarder et de diffuser des films amateurs ou en tout cas des films non professionnels qui ont été tournés en région parisienne. Et donc Cécile Dumas, qui coordonne cette association, est dans la salle aussi et pourra vous répondre si vous avez notamment des films tournés en région parisienne. Mais donc je vais laisser la parole à Daniel Tartakovsky et Tanguy Perron, donc respectivement spécialistes de l'histoire du mouvement ouvrier et du cinéma militant. Et donc ils vont vous présenter chacun des trois blocs. On rallumera les lumières à chaque fois. Et puis donc on aura ce temps de discussion à la fin.
Vous prenez le micro à la main. Ouais. À vous.
Merci. Bonsoir. Bien, alors le premier, nous sommes en mai 1925 et le Parti communiste se présente pour la première fois de son histoire à des élections municipales et en région parisienne, enfin dans la Seine, il gagne les élections dans 9 municipalités, dont Ivry et Bobigny, que vous allez retrouver beaucoup plus tard dans la séance, 5 de ces municipalités étant et demeurant communistes de bout en bout, à quelques virgules près. 9 municipalités, dans l'humanité, Paul Vaillant-Couturier, qui dirige alors le journal, dans son éditorial écrit « Paris est encerclé par le prolétariat révolutionnaire ». Alors, de l'encerclement à l'étouffement, il n'y a évidemment qu'un pas. Là où le Parti communiste met en avant cette puissance nouvelle qu'est cette ceinture rouge, les adversaires se saisissent de la ceinture qui peut étrangler Paris. Il y a des affiches hein, où on voit vraiment une ceinture qui étrangle Paris. Donc, cette ceinture rouge, à la fois drapeau, à la fois rêve, utopie, et en même temps inquiétude de longue durée, pour les adversaires. Alors, il faut en fait attendre les élections de mai municipal, de mai 35, pour ce qui n'était qu'une amorce dans la réalité des choses, 9 municipalités plus quelques-unes en Seine-et-Oise, deviennent une réalité, puisque aux élections de mai 35, à la faveur du désistement opéré entre socialistes et communistes suite à la signature du pacte d'unité d'action antifasciste qui a été signé quelques mois plus tôt, il y a 26 communes qui passent au communisme alliées à des socialistes, et plus des communes en Seine-et-Oise. Et assez paradoxalement, c'est le moment où le Parti communiste va totalement cesser d'évoquer le thème de la ceinture rouge, parce que le discours de Front populaire, le basculement du prolétariat au peuple, se veut un discours qui rassure, se veut un discours de l'unité, et ce thème, qui était un thème bivalent, je l'ai dit, va disparaître. Alors, vous allez voir dans le premier des films qu'il ne disparaît pas tout à fait, puisque la première très courte séquence, c'est une intervention de Marcel Cachin au congrès de l'Internationale communiste qui se tient en juillet 35, et je vous laisse découvrir le discours. Il faut comprendre qu'à l'époque, le Parti communiste français, pourtant en passe de réaliser cette stratégie alternative à la menace fasciste qu'est le Rassemblement populaire, n'est pas tout à fait en odeur de sainteté à l'Internationale communiste qui se défie de cette stratégie. Et donc il est important pour Marcel Cachin de s'appuyer sur cette victoire pour montrer que cette victoire, loin d'éloigner de la révolution, est un instrument qui permet d'avancer dans cette voie. Je vais être beaucoup plus rapide sur les deux autres films parce que Tanguy va me relayer. Dans les trois films relèvent de l'utopie, relèvent du rêve, relèvent du demain que l'on veut construire. Dans le deuxième film, qui est un extrait des Bâtisseurs dont Tanguy va parler, vous verrez un certain nombre de réalisations du Front populaire en termes de bâti. Ces réalisations, mairie, hôtel de ville, école, participent des grands travaux qui sont une réponse économique à la crise économique de 1931. Les municipalités vont s'engager dans des grands travaux qui sont socialement utiles, mais qui par ailleurs permettent de créer du travail dans une France qui est entrée drastiquement en crise. Et dans le dernier des films, qui date de 1953, 1953, c'est à la fois la guerre froide et une période où la France est à l'apogée de la crise du logement, indépendamment de ce que vous verrez tout à l'heure dans le film sur Ivry, qui date pourtant de 1946. Donc une crise du logement qui est là, dans ce film, le Parti communiste évoque, en accusant ceux qui sont responsables de cette situation qui a été aggravée par la guerre et les démolitions, c'est-à-dire les pouvoirs publics, et en mettant en avant le rêve de la cité de demain.
Ben, merci beaucoup, Daniel Tartakovsky. Quelques mots sur les images que vous allez voir. La dernière fois, on a regretté d'être un peu trop bavard et que vous ne voyez pas assez de films, donc je vais essayer d'être bref. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous verrez deux films en entier dans cette programmation. Donc sur ce premier volet où vous allez commencer par trois extraits de films, je ne vais rien dire sur ce que tu viens de dire. C'est un fragment d'archives du Comintern ou Marcel Cachin, dont on a parlé la dernière fois, donc qui dirige l'Humanité, ancien sénateur de la Seine et ancien député socialiste breton, qui symbolise cette transition entre le passé, la tradition et la modernité communiste, donc parle de ces conquêtes politiques dont tu as très bien parlé. Et l'idée de la ceinture rouge qui encercle Paris, elle va hanter tout le XXe siècle, et pas seulement ce péril rouge, c'est un péril banlieusard en fait. Et dans les années 50-60, la presse de droite, quand elle parlera des bidonvilles qui entourent Paris, ça sera un péril vert, un péril arabe ou un péril ville noire, en fait. Donc le fantasme de cette banlieue qui est menaçante, vraiment, ça perdure tout le XXe siècle, et le communisme municipal a incarné cette menace, vue de Paris en tout cas, même s'il y a eu un Paris populaire et un Paris militant, et un Paris ouvrier. Donc je ne dis rien sur cet extrait de film, où on revient sur le terme de banlieue rouge, un peu plus sur un très court extrait de film, hélas, des bâtisseurs, puis d'Horizon. Les bâtisseurs, c'est intéressant, puisque vous allez voir... Donc, Les bâtisseurs et Horizon, en fait, c'est deux films de la CGT, mais au moment où les rapports entre le Parti communiste et la CGT sont étroits. Et Les bâtisseurs, il s'inscrit complètement dans l'idée du Front populaire et n'est pas un film communiste en soi, c'est un film très Front populaire au sens large du terme. Les bâtisseurs est réalisé par Jean Epstein, un grand nom du cinéma français, un grand nom de l'avant-garde cinématographique des années 20. Il a fait la suite de La Maison Upshare, par exemple, et puis il a réalisé aussi Finisterrae en Bretagne à Ouessant. Donc c'est un grand nom du cinéma d'avant-garde des années 20, mais lui va être frappé par l'arrivée du parlant, il aura quelques déconvenues financières, et il va honorer quelques commandes dans les années 30, donc il a une commande de la CGT, réunifiée, pour faire ce film-là qui s'appelle Les Bâtisseurs. Donc Jean Epstein, c'est intéressant parce que ça symbolise la victoire, si on peut dire, l'hégémonie fugace du mouvement ouvrier et de la CGT dans la classe ouvrière, puisqu'il, lui, il est pas communiste, il est socialiste, en fait, Epstein, et il accepte cette commande de la CGT réunifiée donc pour illustrer cette politique de grands travaux dont on a besoin, comme tu disais, Daniel, et pour montrer, et il définit très bien la banlieue comme utopie architecturale. Voilà, et c'est à la fois un film de lumière pour montrer qu'on a besoin de lumière, on lutte contre. Il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la crasse, les taudis, c'est le monde d'avant, et il y a le monde qu'on promet et qu'on va construire grâce aux victoires du Front populaire et grâce à une utopie architecturale incarnée par Le Corbusier et Perret. Donc, dont il y a des entretiens. Et ce cinéaste Epstein, qui est donc membre de la CFIO, il n'est pas très à l'aise, lui, peut-être avec la commande syndicale. Il filme la parole de manière un peu hiératique. Par contre, il filme très bien la lumière. Et c'est un film qui commence sur des plans de la cathédrale de Chartres. Voilà, pour montrer aussi une CGT très, très ouverte, même si c'est une métaphore assez convenue d'utiliser la cathédrale comme effort du peuple dans l'histoire longue. C'est au moment où le mouvement ouvrier récupère toute l'histoire populaire, y compris l'histoire médiévale, y compris l'histoire religieuse. Oui, on peut le voir en entier, parce que là, je vous ai parlé plus longtemps que le film, et on vous allez le voir 2 minutes, en fait. Hein, et vous pouvez le voir sur le site de Cinéarchive. Et je vous avais promis d'être bref. Et pour dernier extrait, Horizon, là, on n'est plus du tout dans cette CGT du Front populaire, puisque c'est un film fait en 53, c'est pour le 29e congrès de la CGT. Et c'est un film marqué par la guerre froide, vraiment très, très intéressant au niveau de la forme et sa construction, avec énormément de mise en abîme, de fondu enchaîné très intéressant. On voit que c'est des techniciens du cinéma habiles qui ont fait ça. Il y a André Dumètre, Ménégoz, Marc Morette, qui sont des noms assez importants du cinéma, que la Fédération du spectacle va apporter, si on peut dire, à la CGT pour construire ce film-là, qui est un retour sur une évocation de 1936, une évocation totalement fictionnelle, puisque on voit que les dirigeants du mouvement ouvrier sont assez à l'aise avec la caméra. Et Frachon va rejouer les accords de Matignon dedans, et on va insérer un plan de Léon Blum. Lui, il ne va pas rejouer les accords de Matignon, il fait oui avec la tête, parce que Frachon lui dicte les conditions du mouvement ouvrier en 36. C'est un peu une réécriture, hein, pour vous dire franchement. Mais ce film-là est très intéressant dans sa construction. Là, vous verrez aussi un acteur que vous allez reconnaître. Peut-être, c'est Michel Piccoli. Donc c'est pour vous montrer que la Fédération des spectacles en 53 est quand même à des très bons techniciens et des acteurs, qu'elle n'a pas connu la scission avec Force ouvrière, donc elle est vraiment importante dans les milieux du cinéma. Et il y a une représentation de la banlieue et la nécessité du relogement impérieux en 53. On est à peu près au moment de l'abbé Pierre. J'ai déjà été un peu long. Donc on vous souhaite une bonne première séquence. Donc voilà pour ces extraits. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais. On voit tout un modèle se construire, là, un modèle collectif, hein, et on voit que tous les besoins sont collectifs. Une petite chose sur le premier extrait, le deuxième extrait, pardon, parce qu'on ne reviendra pas sur le premier. Le deuxième extrait, donc Les bâtisseurs de Jean Epstein, il parle beaucoup aussi de Villejuif, qui était la ville de Paul Vaillant-Couturier. Et en fait, le bâtiment qu'on voit là, il est aussi inspiré du Bauhaus. Et l'inauguration du bâtiment en 1932-1933 a attiré beaucoup de photographes et de gens de l'avant-garde. Willy Ronis l'a photographié, Élie Lothar a photographié. La bande Après-Vert a fait un spectacle aussi anticlérical à ce moment-là, en 1933, quand ce bâtiment a été ouvert. Donc, Le Corbusier, on le sait maintenant, n'était pas particulièrement réputé pour être à gauche, mais il proposait ses services à qui avait les moyens de les réaliser. Donc il les propose aux municipalités ouvrières. Et vous avez vu que les municipalités sont autant prises dans parmi la gauche socialiste que la gauche communiste. Donc voilà, il y a une volonté d'équilibre. Et ce film, donc, Les bâtisseurs, fait partie d'un ensemble, d'une trilogie syndicale faite par la fédération, pour les fédérations de la CGT. C'est une confédération et des fédérations. Là, c'est pour la fédération du bâtiment. Mais le premier film a été fait par Boris Peskin, qui s'appelle Sur les routes d'acier, pour la fédération des cheminots. Et le troisième a été fait pour les métallurgistes et s'appelle Les métallos. C'est-à-dire que sous le Front populaire, le mouvement ouvrier est en capacité de produire des films de manière importante et la CGT a ses propres films. Et c'est vraiment important. Et ça reflète toutes les nuances, toutes les sensibilités politiques de gauche au sein de la CGT. Et cette capacité de s'adresser à tout le monde et pas seulement à la classe ouvrière constituée. Par rapport à ce modèle qui va être bien réparti, vous avez bien noté que comment Le Corbusier souhaite 88% d'espace vert, en fait. Donc on va beaucoup s'inspirer de lui pour construire des bâtiments, mais on ne va pas totalement respecter cette volonté de maintenir des espaces verts, même s'il y a beaucoup d'erreurs potentiellement dans ce qu'il décide, avec par exemple la présence de la voiture, par exemple. Bon, les architectes pourraient en parler très nombreux, les urbanistes aussi. L'autre film de 1953, qui est joué par des acteurs de la CGT, vous avez reconnu Michel Piccoli, hein, qui a été lancé par Louis Daquin pour Le Point du Jour. Il y a aussi des acteurs amateurs, des ouvriers, c'est très habile cinématographiquement. Il y a Paul Francoeur qui est dedans aussi, Paul Francoeur qui était un second rôle, qui accompagnait toujours Gabin dans le cinéma français classique des années 30 aux années 50 en particulier. À ce moment-là, quand la CGT fait ce film-là en 53, elle a cinq dirigeants qui sont inculpés, un qui est en prison et l'autre qui est en fuite, Frachon. Donc c'est pour vous montrer l'importance de la répression. Voilà pour ces petites anecdotes. À toi pour la deuxième séquence.
Ça va être à toi de nouveau. On passe à la deuxième séquence. Alors on va reculer. Non, après les questions. Il y aura un vrai temps de discussion après les trois séquences. Donc on va reculer, remonter le temps, puisque le film que vous allez voir date de 1946. Donc la libération avec, aux premières élections municipales, 40 civils devenus communistes dans le département de la Seine, plus des communes en Seine-et-Oise, le Parti communiste à la présidence du Conseil général de la Seine et de la Seine-et-Oise réciproquement jusqu'en 1947 et 1948. Il ne parle plus de ceinture rouge, le terme était un terme ambivalent dans ses usages, hein, comme Tanguy le rappelait d'ailleurs durablement, on parle de banlieue rouge. Le terme, ça désigne sans porter en lui le possible étranglement que le terme ceinture rendait possible. Alors, le film concerne Ivry. Donc, je vous l'ai dit, Ivry, c'est une des cinq municipalités qui vont rester communistes jusqu'à aujourd'hui, hormis bien sûr 39-44. Et s'agissant de Bobigny, il y a eu une mandature qui a été perdue, mais Bobigny est redevenu communiste aujourd'hui. L'apogée de cette banlieue rouge, ce sera 77, hein, avec 54 villes communistes dans la petite commune, 72 dans la grande commune, et puis après, c'est le commencement de la fin. Et la courbe s'inverse, mais ceci est une autre histoire. Une autre histoire dont on a dit quelques mots la dernière fois en parlant des grèves des années 70, par ailleurs. Le film est un film qui relève de la propagande communale, ça veut dire que ça n'est plus le Parti communiste qui commande ce film ou une fédération de la CGT. Ce sont les maires des communes communistes qui, pour nombre d'entre eux, vont réaliser des films mettant en avant les réalisations de leur commune. Donc on n'est plus dans l'utopie, on n'est plus dans le rêve, même si il y a l'idée de faire davantage dans les années qui viendront, même s'il y a l'idée que ce qui est déjà fait est une image de ce que le monde sera demain, mais on est dans les réalisations des municipalités, et c'est celui que vous allez voir est un peu un prototype de tous les films qui, je dirais, remplissent tous absolument les mêmes cases. L'enfance, hein, l'enfance qui est toujours, vous l'avez vu avec dans ma maison, grand-père Michu à l'école, mais l'enfance dans tous ces films, alors l'enfance aux différents âges, hein, le dispensaire, ce qu'on appellerait les PMI, les maternelles, l'école, les colonies de vacances, mais aussi les autres services mis en place par les municipalités. Et ce qui est intéressant dans ce film, 46, c'est qu'il s'inscrit dans deux temporalités du point de vue historique, et sans doute Tanguy en dira un mot après du point de vue filmographique. C'est un film du Front populaire, c'est encore un film du Front populaire. La bande-son reprend les chants du Front populaire, Ma Blonde, En avant Jeunesse de France, qui sont, dont il n'est pas exclu que ce soit vraiment des éléments de bande-son des films de 36. Il y a des images qui... vous n'avez vu qu'un tout petit bout des bâtisseurs, mais vous verrez que les images d'enfants, ce sont à peu près les mêmes. Il y a une luminosité des images que vous allez retrouver, comme dans le film, enfin la première partie du film des bâtisseurs que vous avez vu. Le thème de l'hygiénisme, hein, très fort dans le film des bâtisseurs et très fort dans ce film-là, l'hygiénisme développé selon tous ces aspects. Bon, mais en même temps, c'est un film de la libération, c'est-à-dire que c'est un film qui dit ce qu'il doit à la résistance. Et donc vous allez voir que le film s'ouvre sur le martyrologe de ceux qui sont tombés et de ceux qui, par ceux qui sont tombés, de ceux qui, grâce à l'action du Parti communiste dans la résistance, permettent à la ville d'apporter à chacun tous ces éléments qui vont être mis en avant par le maire. Oui, tu les as présentés, hein, donc Marane, maire d'Ivry, et Maurice Thorez. Mais vous verrez que la présence de Maurice Thorez est relativement discrète. Hein, c'est vraiment un film municipal et c'est le maire qui est au premier plan, même si Maurice Thorez apparaît à différents moments. Dans la bande-son, je vous dis, il y a des éléments qui sont des éléments de 36, mais il y a aussi des éléments qui sont très... enfin, qui sont significatifs de ce parti qui organise alors les états généraux de la Renaissance française. Nous continuerons la France. Donc c'est la France de la bataille de la production. Donc c'est la France qui va de l'avant. Et vous verrez que les rapports avec la politique, que vous avez vu décliner d'une certaine manière en 53, ne sont pas du tout de même nature que ceux que vous avez vus en 53 et de ceux que vous verrez ensuite en 70. Oui, à toi.
Merci Daniel. Donc quelques mots. Donc vous allez voir là le film en entier qui fait 17 minutes. Ivry, 20 ans de gestion municipale communiste. En fait, c'est un peu le parangon des films municipaux. Vous avez compris qu'au sein de Ciné Archives, la filmographie est très riche et il y a des genres et même des sous-genres. Il y a La Fête de l'Humanité est un genre. Ça décrit aussi un rapport à l'espace, un rapport à la banlieue. Ça, c'est plutôt la banlieue verte. C'est dans la continuité des pique-niques ouvriers dont on a parlé la dernière fois. Là, on a vu une utopie architecturale se dessiner. Et donc, il y a des genres, des sous-genres cinématographiques, La Fête de l'Huma, le film municipal, les films de Colo, par exemple. Et là, ce film municipal est fait en 1946, donc il y a encore des ministres communistes au gouvernement, mais néanmoins, c'est quand même un communisme municipal qui vit quasiment en autarcie. L'État n'est pas très présent dedans. Hein. Donc, c'est du berceau à la tombe, on s'occupe de tous les âges, d'un espace. On accorde plus de temps à la jeunesse, en fin de compte. Même s'il faut, c'est juste dans l'immédiate après-guerre, donc on se rappelle la promesse qu'on doit aux morts, hein, et aux martyrs de la résistance, c'est une espèce de surmoi qui pèse sur les épaules, on doit continuer leur promesse, être fidèle à cet engagement, donc on inscrit les gens dans un espace, dans une continuité historique, dans une fidélité, et ça construit très bien cet espace à la fois donc, enfin, spatial et temporel. Georges Marane, c'est le maire d'Ivry. Thorez, c'est le député, donc vraiment, ce sont des deux parangons de dirigeants extrêmement importants, et c'est pour ça que ce film-là a servi de modèle. Mais il y a quand même eu des films municipaux qui ont été réalisés avant. Un des tout premiers, c'est sur Bagnolet en 1932, qui s'appelle Colonie de vacances. Et là aussi, il y a toujours cette opposition entre la lumière et la noirceur. La lumière qui est le promesse d'un monde nouveau, mais concrètement, c'est aussi la nécessité de mettre à bas les taudis. hein, de mettre à bas le côté sombre. Donc on peut faire une métaphore politique autour de ça. Sur Ivry ou 20 ans de gestion municipale, ça nous ouvre aussi sur un autre sous-genre, qui est le film de Colo. Là, on ne les verra pas, mais il y a des films de Colo vraiment extrêmement importants. On la voit, mais il y a des films qui sont consacrés qu'aux colonies de vacances. Hein. Ça a commencé en 1935 et ça va perdurer pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que la colonie de vacances permet aussi d'agrandir la banlieue rouge, puisque vous avez compris qu'il y a une espèce de bain politique et culturel autour de Paris qui permet cet épanouissement, mais toute la France n'est pas rouge. Mais par contre, les municipalités peuvent acheter des terrains et répandre le communisme dans des terrains qui sont moins favorables. Et vous verrez que Ivry a la colonie des maths, a plein de propriétés comme ça, qui ont longtemps permis à des enfants de découvrir la mer et d'aller en vacances. Et ça permet aussi, particulièrement, de labourer des terres qui ne seront pas acquises politiquement, et même de politiser des fêtes qui ne sont pas du tout au début politiques. Faire une fête de la colonie de vacances le 15 août, qui se transforme en fête de la ville, en fête du PC, c'est assez hardi, en fait. Donc, il y a vraiment une habileté à mêler, justement, les différentes sociabilités pour arriver à construire un espèce d'être communiste avec des extensions en province. Après ce film de 46, Ivry ou 20 ans de gestion communiste, il y aura donc Marane, qui avait financé les amis Spartacus, qui avait financé sur les routes d'acier. C'est un édile qui s'intéresse tôt au cinéma comme moyen de propagande cinématographique. Il y aura Vitry, cité laborieuse, en 47, à la conquête du bonheur, et voilà Marseille. Trois films faits en 47 sur une municipalité, pour vous montrer que les municipalités sont importantes aux yeux du Parti communiste. Donc, bonne projection.
Bon, troisième et dernière partie. Donc, vous allez voir un film sur Bobigny en 70. Avant de passer, dire quelque chose sur Bobigny, j'avais oublié de signaler, mais je pense que vous l'avez entendu, j'ai dit un film du Front Populaire, j'ai dit un film ancré dans la guerre et dans la résistance, mais vous avez évidemment été attentif à l'ancrage dans la Révolution française, hein, avec le nom des blocs de HLM, le bloc Saint-Just, le bloc Marat. C'est un phénomène Front Populaire là aussi, hein, c'est la réappropriation par le Parti communiste de la Grande Révolution, une révolution qui est 93 plutôt que 89, même si par ailleurs la révolution est un bloc. Bon, alors j'en viens à Bobigny. C'est un film qui appartient à un triptyque. On en a que deux, hein, si j'ai bien compris, pas Marion, c'est dans le triptyque. On a les trois. Bon, qui a été réalisé en vue des élections municipales de 71. Alors, bon, vous allez voir dans son intégralité, là encore, vous allez voir un des trois films dans son intégralité, vous constaterez qu'on ne dit pas un mot des élections. Le mot vote, le mot élection n'apparaît pas. C'est un phénomène qu'on avait déjà trouvé dans, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont sans doute vu, le film que Jean Renoir réalise pour le Parti communiste en 1936, La vie est à nous, qui est un film pour la première fois réalisé par un parti politique en vue d'une campagne électorale, et en dehors d'une affiche, enfin d'un color d'affiche, qui à un moment donné colle une affiche où on voit, mais c'est en arrière-plan, voter, et d'ailleurs on ne sait pas quoi, il n'est pas question d'élection, ni dans le film de 36, ni dans le film de 71. Comme disait l'ouvrier dans le film de 53, à Horizon, je vais te montrer ce que c'est que la politique. La politique, on la montre dans les actes, qu'il s'agisse du rêve de l'ouvrier qui construit notre village ou notre petite ville, ou qu'il s'agisse de Marane. La politique est à l'œuvre, et on a dans ces films-là, ça changera dans des films ultérieurs, mais on n'a pas de discours à proprement parler sur l'élection, l'acte de voter. C'est intéressant à signaler. Alors, dans le film, vous allez voir un assez long développement, c'est fait avec des cartes postales ou des photographies anciennes, sur les lotissements, qui ont été la première forme d'habitat des ouvriers chassés de Paris et qui s'installaient dans la première commune de banlieue. Annie Fourcault, dans le travail qu'elle avait réalisé il y a quelques années maintenant sur Bobigny, avait montré comment ce qui a permis précisément au Parti communiste en 1925 de conquérir un certain nombre de municipalités, hein, j'avais dit 9 municipalités, dont Bobigny, c'est l'appui qu'il a apporté à des associations qui se sont appelées les associations de mal-lotis, et vous entendrez dans le film une femme qui explique ce que ça voulait signifier qu'être un mal-lotis. Hein, c'est une période d'inflation de l'après-guerre, donc les ouvriers achètent des terrains à bas prix, d'autant qu'avec l'inflation, ils remboursent... ça leur coûte pas trop cher, mais c'est des terrains nus. Et ensuite, ils se débrouillent. Hein, donc, ils bâtissent sur leur lotissement ce qu'ils peuvent, tant bien que mal. C'est plutôt bien que mal, parce que c'est des ouvriers, parce qu'ils ont des métiers, parce qu'ils s'entraident. Simplement, il n'y a absolument aucune infrastructure. Il n'y a pas d'eau, ils sont raccordés à rien. Et c'est cette bataille que le Parti communiste va mener aux élections de 25 en faveur des mal-lotis qui va contribuer à ces victoires de 25. Mais le film ne date pas de 25, même s'il fait une longue allusion à cette période des lotissements. Il date des années 70, c'est-à-dire que là, et vous allez voir, bon, je pense que vous avez remarqué dans les différents films, il y a des mots qui reviennent avec force et qui vont revenir là. Il y a rationalité, il y a modernité. Il y a hygiène aussi, mais rationalité, modernité. Et donc, c'est vrai que ces maires s'inscrivent dans une perspective de rationalité et de modernité dans la construction du logement. C'est avec cette nécessité de faire face à la crise du logement, l'abbé Pierre 54, et donc on est dans la phase de construction accélérée qui va suivre l'appel de l'abbé Pierre. Et là, on est 15 ans plus tard. C'est l'heure de l'urbanisme. C'est l'heure des grands ensembles, c'est l'heure de l'architecture sur dalle, mais sans les espaces verts, comme tu disais, Tanguy. Bon, vous allez voir qu'il y a quelques années plus tard, on va dire qu'il y aura un regard plus critique sur ce type d'architecture, mais là, on est dans l'apogée de cette phase dans l'histoire de l'urbanisme aux portes des grandes villes. Vous serez également attentif, vous avez remarqué que dans le film précédent, on avait de la voix off. Et on a la voix off, y compris sur... On n'a pas Maurice Thorez, c'est voix off sur Maurice Thorez que voix off sur l'ensemble des acteurs. Donc c'est la voix off qui donne le sens, alors qu'on a Marade et on a Maurice Thorez, dont on pourrait penser qu'il y a une prise de son directe avec des éléments directs de discours. Là, on n'est plus du tout dans la voix off, c'est des entretiens. Et vous verrez comment on est après 68, hein, on est en 70, et comment l'idée de la consultation des administrés, et des citoyens, comme vous voulez, mais des administrés plutôt, tente de se mettre à l'œuvre avec un rapport aux enfants, je vous le laisse découvrir, qui n'est pas tout à fait celui qu'on a pu voir dans les autres films.
Oui, donc vous avez vu que dans Ivry, dès qu'on ouvre une fenêtre, il y a un enfant qui fait coucou. Dès qu'on voit un chant, il se met à courir. Donc il y a toute une mise en scène quand même où les gosses, on dit allez, souriez, courez et tout ça, quoi. Donc vraiment, c'est une force collective mise en scène. Alors il y a des limites techniques aussi. C'est en fait compte, là, il n'y a pas de son direct en 45-46. Donc c'est pour ça que le modèle, c'est les actualités filmées. C'est du journal filmé, commenté en fait. Arrive le son direct dans les années 60, et puis arrivent des nouveaux cinéastes aussi, des nouveaux techniciens de cinéma qui ne voient pas les choses de la même façon et qui ne filment pas les choses de la même façon. Donc là, le modèle, c'est un film de propagande que vous avez vu celui de 46, avec des contre-plongées qui pourraient éventuellement nous faire penser à un style soviétique, mais bon, c'est le modèle dominant, c'est les actualités filmées. C'est bavard et ça nous dit ce qu'on doit penser. Et c'est très riche sur toute la sociabilité, comme on l'a vu, communiste, qui s'instaure et qui explique pourquoi ces mairies durent aussi longtemps aussi dans le temps. C'est parce qu'il y a des acquis en termes de population, la population longtemps s'y reconnaîtra. Arrive les années 60, dès les années fin 50, début 60, le Parti communiste a moins les moyens de ses ambitions cinématographiques. Une extrême gauche dessine à sa gauche, forcément, au moment de la guerre d'Algérie. Il ne croit moins à ce style cinématographique. Il a aussi subi beaucoup de censure. Donc on peut dire que le cinéma militant, il le laisse de côté. Et le cinéma de propagande, il s'en sert un peu moins. Mais vous avez vu que ces films de propagande, ils sont à la fois... Ils ont deux spectateurs. Il y a les spectateurs globaux pour montrer qui s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse en priorité, pour le film d'Ivry, aux Ivriens. C'est pour ça qu'il nomme les maires, il nomme les lieux et tout ça. Arrivent les années 60, les années 60 où le cinéma militant, le cinéma de gauche se renouvelle, et il y a un groupe après 68 de cinéastes communistes, de techniciens communistes qui se fédèrent et qui fait le groupe d'Inadia, mais ils n'ont plus le même lien au parti. C'est d'abord des techniciens qui se regroupent par affinité professionnelle et politique et qui mettent leurs compétences au service du parti. C'est pas le parti qui commande un film. Donc vraiment, il faut convenir, voir ces nuances. Le groupe d'Inadia ne va pas durer très longtemps, il va durer quelques années. Et ensuite, il sera remplacé par Unicité, qui sera, lui, directement lié au Parti communiste. Plus directement lié, parce qu'il sera lié au service de propagande. Donc là, il y a un petit flottement. Et on peut supposer, alors sans exagération de ma part, il y en a peut-être une, que les cinéastes ont leurs petites pattes et peuvent avoir une légère mélancolie ou un léger décalage par rapport à la commande. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas forcément dupes, ou ils voient un monde moderne qui se construit. Ils ont peut-être une petite interrogation sur ces pavillons qu'on détruit, sur ce monde qui se dresse. Parmi les opérateurs, là, j'en ai parlé la dernière fois, il y a par exemple Bruno Muel, qui a été quelques années adhérent du Parti communiste entre 69 et 74. On reconnaît un style cinématographique, comme on reconnaissait un style cinématographique dans les très beaux plans sur l'arrivée des Espagnols à Montreuil. Là, les villes communistes sont toujours autarciques, mais on réclame de plus en plus quand même une intervention de l'État. On dit c'est pas normal, on a des grands projets, mais l'État ne contribue pas assez, ne contribue pas à nos réalisations. Tandis que le film de 46, on ne parle même pas de l'État, quoi. Donc comme si on peut se suffire à soi-même. On est malgré tout en 71, donc avant le début de la crise, ce qui est improprement appelé la crise, parce qu'une crise qui dure de 73 à aujourd'hui, c'est pas une crise, mais une reconfiguration du capital. Et on est avant le chômage de masse et on a encore, croit-on, les moyens de ses ambitions. On réclame une intervention plus grande de l'État et on imagine que les classes populaires qui sont moins frappées par le chômage ont accès aux vacances, vont aller vont par exemple découvrir la mer, ont accès au parc qu'on construit pour eux en Seine-Saint-Denis. Ça, ils l'auront toujours effectivement, mais on n'a pas anticipé forcément. On est dans l'avant 74, donc on pense que la gauche va gagner les présidentielles, on pense qu'on peut encore remodeler la société française, et donc dans ce modèle où tout le monde va en vacances, où tout le monde a du boulot, la banlieue est plus acceptable. Mais au-delà des erreurs architecturales, il va y avoir l'enfermement dans ces cités qui sont aussi provoquées par le chômage et qui vont expliquer la dégradation de ces grands ensembles qui ont d'abord été un grand progrès social et urbanistique. Voilà, mais c'est le début d'un... Je dis ça pour le débat qui s'ensuit. Donc on va voir Bobigny et Ville-Nouvelle. Est-ce que quelqu'un veut présenter le film amateur ? Tu parleras dessus ? Bon.
Donc, comme ces images sont muettes, je vais dire deux, trois mots sur, donc sur ces images qui donc, ont été déposées à Mémoire filmique d'Île-de-France en 2021. Donc, c'est un dépôt très récent, moins de deux ans. Ce qui fait que donc, ce fonds, c'est un fonds de 150 bobines en 16 mm qui ont été déposées par la petite fille du cinéaste. Le cinéaste s'appelait Armand Viard. On a assez peu d'informations sur lui, si ce n'est qu'il a été... Il était photographe, en tout cas il avait une boutique de photographie à Levallois, puis plus tard à Saint-Maur-des-Fossés. On ne sait pas exactement à quelle occasion il a fait ces images. L'hypothèse qui reste encore à vérifier, mais qui semble avérée, ce serait qu'il s'agirait d'un film de commande pour une entreprise de BTP. À l'heure actuelle, donc, le fonds est en cours de traitement. Plusieurs heures ont été numérisées, mais donc plusieurs heures sur vraiment des centaines d'heures, ce qui fait qu'on ne sait pas encore ce qu'on va trouver dans les autres bobines. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vraiment des images, des rushs comme ça, des rushs bruts, muets, non montés. À voir si dans les prochaines bobines qui seront inspectées, à voir si on trouve un état de montage fini. En tout cas, il a vraiment documenté très assidûment le chantier de construction du périphérique tout au long du périph'. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans l'extrait qui vous est présenté, on se concentre sur le chantier du boulevard de la Porte de la Chapelle, pardon, et de la construction d'un très gros échangeur. Mais par ailleurs, dans les rushs, on trouve beaucoup d'images sur la construction du périph au niveau de la porte de Pantin ou de la porte de Saint-Ouen. Ce qui est significatif aussi, c'est que le périph, mais bon, ça vous avez tous eu l'occasion de vous rendre compte, n'est évidemment pas le même, et enfin, sa visibilité n'est pas la même, et sa capacité à être une frontière n'est pas la même selon qu'on est dans les beaux quartiers ou dans les quartiers plus populaires. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on trouvait intéressant non seulement donc d'offrir une visibilité à ces images qui sont vraiment inédites puisqu'elles viennent d'être retrouvées et numérisées, mais également on trouvait intéressant de montrer des images du périphérique qui est certes un outil de cette fameuse modernité et de ce progrès à l'œuvre qu'on voit là tout au long de cette séance, mais qui est aussi vraiment une rupture, enfin une frontière entre Paris et sa banlieue.
Oui, la parole à la salle, monsieur. Oui.
Oui, j'étais venu, bon, je suis un vieux banlieusard, enfin j'habite à Paris depuis un an, mais j'étais venu essentiellement pour le film qui est illustré là, puisque j'ai habité dans l'immeuble qui est là, devant le cimetière qui existe toujours, et devant les maraîchers là qui n'existent plus. Mais... Le premier film m'intéressait aussi parce que j'ai vu, sinon l'école où moi j'étais petit, puisque c'était l'école de Phil qu'on m'a montré, l'école Léoménil à Montrouge, et Montrouge est aussi intéressant comme municipalité du Front populaire. Vous voyez que c'est les seuls bâtiments, l'hôtel de ville et l'école Léoménil, où il y a la brique rouge qui est une marque du Front populaire, et que la municipalité de Châtenay-Malabry, par exemple, essaye de détruire à la butte rouge actuelle. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est toujours l'annexe de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Montrouge, en face, est toujours une des fameuses mairies du 19e siècle. Bon, c'était un super personne. Là, j'étais électeur en 1971 à Bobigny. J'étais pas... un militant du PSU visible, parce que en même temps, j'étais fonctionnaire de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, j'ai vécu 68, donc là, et en face de la préfecture. Donc, ce que le président Valbon, là, le maire de la ville, ne dit pas, non seulement il ne parle pas des élections municipales, mais il ne dit pas qu'il est le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, et donc le patron, hein, 34 conseillers généraux communistes sur 40, et que ça a complètement changé la ville. Moi, la section PSU, qui avait 100 fois moins d'adhérents que la section du PC, mais plus que le PS qui figurait dans la municipalité, était composée essentiellement d'anciens castors du 19e et du 20e, qui étaient arrivés là, tranquilles, et ils tenaient une rue, on tenait une rue... La question est comment reconstituer, et je n'oublie rien, c'est une sélection, comment reconstituer quand même l'histoire de la banlieue parisienne autrement que par des épisodes comme ça du... alors je me doute bien que au pavillon de l'Arsenal il y a tout, mais j'aimerais comment on peut... avoir le catalogue, finalement, de ciné-archives. Je vous précise que mes travaux de recherche sur la banlieue sont plutôt centrés sur les archives de la Fédération Seine-Banlieue, de la SFIO, du PSA et du PSU, et que moi-même, ayant été secrétaire général de l'Université de Villetaneuse, et élu d'ailleurs un très peu de temps à Villetaneuse, j'ai des visions qui ne sont pas exactement la vision un peu thorésienne ou post-thorésienne du film.
Castor, déjà, traduction.
Il y a
je réponds juste sur Ciné Archive et puis je vous laisse enchaîner sur les versions historiques.
Merci, monsieur.
En tout cas, pour ce qui est du catalogue Ciné Archive, il y a vraiment plusieurs centaines, enfin, au moins une centaine de films, et je dirais plusieurs, sur la banlieue, donc des années 30 aux années 70. Et les films sont consultables sur le site internet de Ciné Archive, donc cinéarchive.org. On a fait un parcours thématique sur la banlieue, donc dans lequel vous retrouvez vraiment tous les films, depuis L'écolo de vacances de Bagnolet en 32, jusqu'à toute la série des films municipaux là, de 70. Enfin, voilà, ce catalogue existe, il est disponible.
Sur les Essonnes aussi ?
Alors, sur les Essonnes, non. Il se trouve que il y a... Les circonstances font que nous, à Ciné Archive, on ne conserve pas de films sur l'Essonne. En revanche, si vous êtes intéressé par l'Essonne, il existe une autre cinémathèque qui s'appelle Cinéam, en un seul mot. Et donc Cinéam collecte des films non professionnels tournés en Essonne. Et donc là, vous aurez des chances de...
Je la connais.
D'accord, bah donc... Cinéam pour l'Essonne et Mémoire filmique d'Île-de-France, donc le nouvel arrivant...
C'est une autre association.
Oui, donc qui conserve le dernier petit film qu'on a vu, enfin qui était juste un très bref extrait, mais donc d'une œuvre, d'un corpus beaucoup plus important. Et donc Mémoire filmique depuis 3 ans, mais peut-être Cécile pourra. Enfin, je sais que là on ouvre plein de parenthèses, mais donc Mémoire filmique collecte des films sur un territoire donc vraiment régional, pas uniquement l'Essonne et pas thématique comme nous Ciné Archive qui collectons uniquement des films militants. Mais donc, Mémoire filmique collecte des films plus largement sur la banlieue parisienne.
Oui, je voulais ajouter peut-être un tout petit mot sur les castors. Tout le monde sait ce que c'est que les castors ? Oui, les castors, c'était des associations qui se sont créées, en fait, des associations qui n'étaient pas forcément déclarées. Hein. En fait, des groupes constitués au lendemain de la guerre, c'était des ouvriers ayant différents types de compétences, qui mettaient en commun leurs forces pour construire, comme les castors qui construisent leurs barrages, pour construire justement ces pavillons. Donc une partie de ces pavillons était l'œuvre de collectif, donc on s'entraidait, tout le monde travaillait sur un pavillon, puis sur un autre pavillon. Mais c'est pas. Je voulais ajouter quelques mots sur la nature, je ne veux pas parler à votre place, mais la nature de ce que nous vous présentons et du choix que nous avons fait. Il est évident que dans une sélection comme celle-là, notre objectif n'est pas de... Enfin, moi, je suis historienne. Hein. Tout historien sait que pour travailler sur un objet, il faut évidemment multiplier les sources de diverses provenances. Donc, d'accord avec vous, si nous voulons travailler aujourd'hui sur une histoire de ces banlieues, il va de soi qu'il faut multiplier les sources et donc aller chercher dans d'autres fonds, filmiques ou papier, bien évidemment, dans différents centres d'archives, les différentes sources et les croiser. Ça, c'est le béaba du travail de l'historien. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de travailler sur un type de source que nous donnons pour ce qu'elle est. Tout à l'heure, Marion a présenté ce qu'était le fonds Ciné Archives, donc ce fonds se donne pour ce qu'il est, c'est-à-dire que ces films nous renseignent à la fois sur la nature d'un discours tenu par une ou des organisations politiques et syndicales à un moment donné, c'est pourquoi on a éprouvé le besoin de les situer à chaque fois historiquement. Donc c'est bien, c'est des films de propagande, au meilleur sens du terme propagande, hein, puisque nous avons affaire, effectivement, comme le rappelait Marion, à un parti qui, comme les catholiques d'ailleurs, enfin, ce sont les deux forces qui, les premières en France, ont perçu l'importance du cinéma pour tenir un discours de propagande au sens de la propagation de la foi, hein, donc au sens, encore une fois, étymologique de propagande. On n'est pas, c'est autre chose que de la communication. Et en même temps, dans ce discours qui est connu et dans ces images qui sont montrées, nous voyons et nous apprenons des choses qui sont quand même d'un grand intérêt sur chacun des sujets traités, et en particulier ici sur les objectifs en matière d'habitat, les réalisations, leurs limites et les difficultés. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas à nous opposer à un autre type de source. Ces sources se donnent pour ce qu'elles sont. Il y a une double lecture à en faire, ou une double utilisation. Quelqu'un qui travaille sur le Parti communiste peut les utiliser pour travailler sur le discours en image du Parti communiste sûr, et quelqu'un qui travaille sur la banlieue les utilise pour ce qu'elle nous montre par ailleurs de la banlieue. Tanguy, tu voulais...
Non,
je ne
sais pas. C'est un geste
Bonsoir, je voulais revenir sur le très beau plan de l'avant-dernier film, le plan de Bobigny, Ville Nouvelle, avec ses enfants qui découvrent la maquette, commenté par un adulte, et puis ensuite la caméra est en roue libre. Alors je ne sais pas si c'est Bruno Muel qui est à la manœuvre à ce moment-là, mais le plan est magnifique, et on se sent un tout petit peu moins piloté que dans la plupart des films qu'on a vus ce soir. Alors je voulais juste relever comme ça la grâce de ce plan, mais ma question est plutôt d'ordre sociopolitique. C'est fascinant de voir quand même dans cette séance, je reviens aussi sur le film de la colonie de vacances d'Ivry, combien le peuple immigré, les enfants d'immigrés sont pratiquement complètement absents. Et pour Bobigny, quand on connaît la ville aujourd'hui, c'est sidérant. Alors, est-ce que c'est réellement une réalité sociologique qui est observée, ou est-ce que, pour reprendre un mot maintenant consacré, il y a quand même dans ces films de propagande, vous l'avez rappelé, une certaine invisibilisation du peuple qui vient des anciennes colonies françaises, hein. Parce que c'est quand même très frappant. Est-ce que c'est un propos délibéré de donner une image finalement politiquement correcte du point de vue d'une vulgate du Parti communiste à l'époque?
Alors pour revenir en termes cinématographiques à la première remarque, moi aussi j'étais sensible à la beauté de certains plans de Bobigny, Nouvelle Ville, et sans m'enfermer dans un discours cinéphilique, vous voyez bien la différence entre Ivry, 20 ans gestion communiste, où c'est des techniciens qui sont habitués à mettre leur image au service d'un discours, et c'est surtout le discours qu'on entend. Là, on voit aussi des plans cinématographiques, et vous avez vu au générique de fin, on voit non seulement le mot de Bruno Muel, qui a une certaine mélancolie, une certaine douceur pour filmer, mais il y a Théo Robichet aussi, qui c'est son comparse, qui est un grand preneur de son. Ils ont fait ensemble Septembre chilien, qui est un chef-d'œuvre du cinéma documentaire. Il y a Robert Bozzi, qui est un bon cinéaste aussi. Donc voilà, c'était des jeunes gens de cinéma dont certains avaient fait l'IDEC, Bruno Muel s'est formé sur le tas, qui mettent vraiment un art cinématographique au service de leurs convictions parce qu'ils sont communistes. C'est des films de commande, mais il y a un petit décalage, une petite mélancolie qui s'instaure, et on voit la patte de réalisateur et sinon des pattes politiques et humaines personnelles. Ce qui est intéressant, c'est que ce film là Bobigny Ville Nouvelle, il faut le comparer à Pantin, il faut le comparer à Bagnolet, parce que à cette époque là Dinadia va faire beaucoup de films, donc c'est vraiment intéressant pour l'histoire de la banlieue, l'histoire du regard sur la banlieue, l'histoire du cinéma militant. Pour répondre à la deuxième question, en fait, la banlieue, elle a évolué vachement en fonction au sein de ses populations. Et du coup, contrairement à ce que vous disiez sur le film d'Ivry, il y a plusieurs fois des plans sur des enfants noirs qui apparaissent. Et je ne pense pas qu'il y ait eu blanchiment ou épuration. L'immigration est moins importante à cette époque-là, et ils intègrent dans les plans quelques enfants noirs qui sont présents. Pour Bobigny, l'immigration est bien plus importante, hein, à cette époque-là. On voit une immigration maghrébine, mais ce qui est surprenant, c'est que Bobigny, cette ville que j'ai pas mal connue et fréquentée, il y a un vieux prolétariat blanc, hein, qui s'est installé, qui était là depuis longtemps, qui s'est installé. C'est une ville complètement remodelable, Bobigny. Ça, c'est intéressant. Ça distingue d'Aubervilliers, ça distingue d'autres villes, parce que les pavillons, des champs, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. C'était très facile de construire Bobigny, en fin de compte. C'est pour ça qu'on a fait des tours et tout ça. De la part des cinéastes d'épurés, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est... alors, par contre, ceux qui sont... Le monsieur portugais, le coiffeur doit être portugais, hein, les porte-paroles, bien sûr, les porte-paroles sont beaucoup plus souvent formées par, sont traversées par le filtre du mouvement ouvrier, et sont issues des catégories blanches. Mais non, je pense que c'est assez fidèle à l'image de la banlieue.
On a eu une question un petit peu similaire pour les films, pour un des films de la dernière fois. Ces films ont 50 ans. En même temps, on a connu, enfin, un certain nombre d'entre nous, on est contemporains en tout cas des derniers, mais ces films ont 50 ans. Et moi, j'ai presque plutôt le sentiment que dans chacun de ces films, ça vaut d'ailleurs même pour les films de 36, ils font attention à ce qu'à un moment donné, il y a un noir et un arabe. C'est vrai pour le film de 36, pour La vie est à nous. Et là, il y a aussi à chaque fois, il y en a un. Ce qui ne le voyons pas avec la manière dont... Alors, d'abord avec ce qu'est la population de Bobigny aujourd'hui, hein, ou ce qu'est la population de ces différentes villes, d'une part, et d'autre part, Je veux dire, il y a toute une série de choses qui sont devenues pour nous des, enfin, auxquelles nous pensons immédiatement. C'est, je pensais que quelqu'un prendrait la parole sur. Quand on dit le travailleur peut se reposer le soir, je crois que c'est dans. Oui, ben c'est dans le. C'est dans Ivry. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais papa fume et maman fait de la vaisselle. C'est, bon, mais c'est un film qui date, cette fois-ci-là, il a 70 ans. Donc, il me semble que pour les années 70, il y a plutôt un effort, volontaire ou pas, je ne sais pas. Je ne crois pas, mais je ne sais pas. Mais encore une fois, ne regardons pas ces films avec notre œil à nous. Enfin, si, mais regardons-les en sachant qu'ils ont 50 ans ou 70 ans, alors que du point de vue filmique, ils ont une réelle modernité des images. C'est peut-être aussi ça qui est. On ne se poserait peut-être pas ces questions-là pour les films des années 30, parce que bon, c'est le type d'image n'est plus le même. Mais là, on est quand même dans notre modernité à nous et dans ce que nous lui reprochons aujourd'hui.
Dans les écoles de Bobigny. 71, ma fille était à Bobigny. Dans les immeubles là, on a logé tous les fonctionnaires pour remplir la cité administrative. Il y avait 2000 personnes. On a recruté tous les instituteurs des écoles de Bobigny, qui est un village, comme le monsieur le dit, dans la Dépêche et dans Sud-Ouest. Donc, et on a aussi récupéré, comme toute la banlieue, des rapatriés. Bon, les Nord-Africains, comme on disait à l'époque, ils étaient déjà là avant. Mais donc on montre tous les ouvriers qu'il y a, c'est-à-dire tous les provinciaux, tous mes collègues de la préfecture. Moi, j'ai fait partie d'un concours national, de deux concours nationaux attachés de préfecture, exclusivement réservés pour ces préfectures. Bon, moi, j'étais parisien, mais il est venu de toute la France, et la préfecture a été construite par des jeunes fonctionnaires et des fonctionnaires de préfecture, des finances et tout ça, qui tentaient une expérience de province. C'est pour ça que Valbon, il n'est pas seulement le maire d'une ville qui grandit, il est le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, il co-gère avec un préfet gaulliste la fabrication de la Seine-Saint-Denis. Bon, il y a des autres éléments. Il n'y a pas de vision. Ceux qui filment les enfants de Bobigny, qui effectivement, il n'y avait pas de noir.
D'autres questions ?
Oui, bonsoir. Alors, juste une réponse complémentaire pour monsieur qui s'intéresse à l'Essonne. Il y a une autre association qui s'appelle. Pour monsieur qui s'intéresse à l'Essonne, il y a une autre association qui s'appelle Mémoire et patrimoine vivant à Corbeil-Essonne. Voilà, qui a produit beaucoup d'entretiens, en fait, enregistré beaucoup d'entretiens. Je crois que Cécile connaît l'association et pourra en parler mieux que moi. Et moi, j'avais une question justement sur cette question de la diversité, en fait, dans les écoles. Parce qu'au niveau de la temporalité, quand on construit ces immeubles, début des années 70, où en sont, en fait, les grands bidonvilles de Nanterre, de Champs ? Est-ce qu'ils ont disparu ou est-ce qu'il y a un chevauchement entre les deux, et est-ce que ce ne serait pas là que seraient concentrées les populations nord-africaines, etc.
Oui, alors, la spécificité de Bobigny, c'est une ville surtout neuve, en fait. Hein, donc, voilà, ce n'est pas Aubervilliers, ce n'est pas Saint-Denis, tout ça. Quoi. Donc, vraiment, chaque banlieue a ses histoires aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, vous aviez tout à fait raison, on arrive à une espèce de croisement entre le déclin et l'éradication des bidonvilles et la construction de ces grands ensembles. Alors, il n'y a pas un transvasement automatique hein, des bidonvilles au HLM. Ça serait trop beau, si l'on peut dire. Néanmoins, le grand bidonville de Nanterre... c'était des bidonvilles qui ont eu jusqu'à 10 à 12 000 personnes. Le plus grand, c'est celui de Champigny. C'était surtout des Portugais. 15 000 personnes, quand même, hein, qui vivent dans un bidonville, parfois avec très peu de points d'eau. Ces bidonvilles sont vraiment en train de disparaître, comme ça. Quoi. Donc, et y a un transvasement. C'est-à-dire que le grand bidonville de Nanterre, quand il ferme, quand par tranches successives, les populations vont aller vers d'autres bidonvilles et vont aller vers la Seine-Saint-Denis, et qui sera le département le plus bidonvillisé de France, mais le plus tardivement bidonvillisé. Et du coup, il y a... Non seulement ces grands bidonvilles qui sont connus, qui ont occupé nos représentations, donc avec des erreurs, Nanterre, Algérien, mais on connaît que le bidonville de Nanterre, donc, alors qu'il y en a plein, et il y a aussi des micro-bidonvilles. Des micro-bidonvilles, c'est-à-dire des bidonvilles de moins de 30 personnes. Et là, il y en a partout, en fait. Il y en a partout en Seine-Saint-Denis, et il y en a à Bobigny, il y en a au pied de la préfecture, voilà. Effectivement, on peut trouver la population étrangère sera majoritairement là, quoique... Les Portugais, il y a beaucoup de Portugais qui viennent. En 69-70, c'est massif, hein, l'arrivée des Portugais dans le département. Ils vont assez souvent en bidonville. C'est un passage quasiment obligé. Et il y a des populations pauvres étrangères qui ne passent pas par les bidonvilles. C'est par exemple les populations subsahariennes. C'est beaucoup plus les taudis qui peuvent être, ou les caves qui peuvent être pires que les bidonvilles, mais quasiment jamais en bidonville. Donc voilà, il y aura toute une histoire complexe à dire. Mais effectivement, la population étrangère, on peut plus la trouver dans ces bidonvilles. Qui sont vraiment en train de disparaître avec un concours, une collaboration État, mairie communiste et préfecture. Mais dans ces bidonvilles, il y a aussi un sous-prolétariat blanc, à la Courneuve en particulier, ou à Noisy-le-Grand, où c'est plutôt géré par l'abbé Pierre. Pour revenir au mouvement des castors, c'est intéressant parce que toute cette histoire de la banlieue, autour de la propagande, on voit l'importance du logement. Alors on était moins festif et revendicatif que la première séance, mais on voit que la question du logement mine le quotidien des classes populaires, quoi, et qu'il faut y répondre, et que la réponse n'est pas forcément adéquate, mais il faut se méfier des jugements rétrospectifs aussi, parce que les grands ensembles ont d'abord été un progrès, effectivement, en termes d'accès à l'eau, en termes de superficie, en termes de surface. Moi, j'avais fait un petit film avec des gens qui habitaient une tour à Bobigny, où effectivement, c'était majoritairement des blancs au départ, et c'était un saut qualitatif inouï. Ils avaient vécu dans le 19e dans des trucs infâmes, dans des hôtels de passe et tout ça, quoi. Donc ils arrivaient à Bobigny, c'était Karl Marx, avec l'église qui surnommait l'église Karl Marx d'ailleurs, mais c'était pas son vrai nom. Ils disaient c'était l'Amérique. C'était le paradis, quoi. Donc il fallait des patins, voilà. Donc et ce qui est intéressant, c'est au-delà de, et c'est pour ça que ces images enfin sont très intéressantes de chantier, c'est que la banlieue a toujours été en perpétuel chantier, en fin de compte. Il y a toujours ces moments de construction, déconstruction, reconstruction, ce qui nous plonge dans des abîmes de perplexité, parce qu'on a des problèmes pour les populations qui sont elles-mêmes en transit d'avoir des repères. Il n'y a pas de repère spatial ou physique, c'est beaucoup plus dur en fin de compte, quand même, parce que les tours que vous avez envoyées là, celles-ci là, deux tours à Bobigny, non seulement on a rasé les petits pavillons, les agriculteurs sont partis, document unique d'ailleurs, hein, entendre des paysans parler... À Bobigny, on a du mal à imaginer ça maintenant. Tu vois. Il y avait une ferme il y a peu de temps encore, enfin, il y a quelques décennies, à Tremblay. Donc voilà, c'est la banlieue était aussi un paysage en contact avec le monde agricole. À Bobigny, ils ont rasé les tours, ou écrété les tours, tout dernièrement. Ils ont sans doute fait exercer. Supprimer la dalle. C'est une vision assez américaine aussi, qu'on voit dans le discours de Le Corbusier, c'est-à-dire séparer les piétons des voitures et tout ça. Et mettre un centre commercial, tout ça, tout a sauté. Donc c'est vraiment se retrouver comment s'accrocher, comment se retrouver des repères dans ce paysage en total changement, c'est compliqué. Et heureusement qu'on a des images.
Oui, deux informations pour compléter ce que dit. Il y a un ouvrage de sociologie qui travaille en sociologue sur ce tournant qui a constitué l'arrivée de la population immigrée dans ces immeubles plus tardifs et dans une situation par ailleurs de crise économique et de chômage. C'est l'ouvrage, c'est Thierry Masclet, qui s'appelle La gauche et les cités, où il montre comment les difficultés qui vont naître de cette irruption d'une population dans des immeubles qui datait d'une autre époque, et l'incapacité dans laquelle vont se trouver les municipalités à faire face à ces besoins nouveaux et à ces populations nouvelles, contribue à cette inversion de courbe que j'évoquais au début, et donc à la disparition, ou à la quasi-disparition, de cette banlieue rouge. Et la deuxième chose, pour compléter un peu la chronologie que vous évoquiez, il y a des collègues de Paris 1 et des profs de lycée de la Seine-Saint-Denis qui ont créé une association qui s'appelle l'AMULOP, et cette l'AMULOP a fait un musée éphémère. La population...
Oui.
Non, je crois que c'est fini, mais ça, ils se battent pour pouvoir le pérenniser dans d'autres lieux. La municipalité de Bobigny, qui était en train de détruire des bars, leur a mis à disposition, pendant toute la durée préalable à la démolition, trois appartements. Et donc, c'était des médiateurs donc, qui étaient issus des lycées du coin qui faisaient visiter les appartements à des tout petits groupes. Alors, moi, j'avais visité donc, un appartement. Et l'appartement a été. Enfin, les trois, il y avait trois appartements. Et dans chaque appartement, les appartements avaient été meublés avec des objets ayant appartenu à trois familles qui avaient successivement habité dans cet appartement. Et alors ils font ça avec des groupes scolaires, c'est assez formidable. Et évidemment, la première famille est une famille du terroir, si j'ose dire, enfin du coin, c'est ce qu'on entend dans le film, qui passe du. C'est Aubervilliers, c'est pas Bobigny, mais qui passe d'un petit truc qui ne vaut pas grand-chose à un appartement où c'est propre, c'est moderne. Comment elle dit, la dame, faudrait être difficile pour pas, etc. Des Portugais, dans l'appartement que j'avais visité, puis ensuite à une famille d'Afrique subsaharienne. Et on a trois générations, et par ailleurs, à partir des objets, donc on fait reconstituer aux visiteurs à la fois l'histoire de l'immeuble et des mutations de la société. Donc ils sont en train de militer pour que ce musée éphémère devienne un musée durable, mais effectivement, on voit bien cette succession et ça répond un petit peu à la chronologie que les uns et les autres, là, on est en train de mettre en place depuis un bon moment.
Ouais, c'était au point de vue muséographique, c'était admirable, ces visites, ces appartements, ouais. Un peu de muséographie à l'américaine. Concrètement, on voyait les gens, le passé, tout ça, et ça marchait très très bien. Donc on a parlé de ces immeubles qui apparaissent, qui disparaissent, ou qui sont arasés, qui sont écrétés, mais aussi des réussites architecturales, quoi. Il y a à la fois la nécessité de loger les classes populaires, et en banlieue, il y a des choses qui ont été, du point de vue architecture, sont très belles et qui perdurent. Alors on a beaucoup interrogé, remis en cause certains types de logements qui étaient mal fabriqués, mais tous n'étaient pas mal fabriqués comme ça. Et d'ailleurs, on a du mal à comprendre le gâchis, donc des mouvements, des populations, pourquoi détruire un immeuble alors qu'il n'était pas si mal que ça. Donc voilà, il y a toute une histoire à créer, mais c'est des pièces indispensables. Il y en a qui étaient très mal construits, qui étaient très sonores aussi, hein, vraiment. Mais là, il y a une lutte, même dans le film d'Ivry, on dénonce ce que fait l'État. On dénonce la mainmise de Paris. Il dit ça, c'est HLM-là, c'est pas nous. Les 4000 de la Courneuve, ça a souvent été servi de reproche pour la Seine-Saint-Denis ou à la municipalité. Les 4000 de la Courneuve étaient construits par, appartenaient à la ville de Paris et non pas à la municipalité. Voilà, donc c'était comme un fardeau. Les représentations sont surdéterminantes. Vous rencontrez des gens qui ne connaissent pas la Courneuve aujourd'hui, vous dites les Courneuves, ils vont dire « Ah oui, les 4000 ». Les 4000 ont été rasés depuis longtemps, hein, donc ont été complètement changés. On ignore le passé industriel et on ignore les évolutions urbanistiques aussi.
Il y a eu un gros scandale à Saint-Ouen quand ils ont détruit, il y avait une tour de Tchemetov qui était horrible, elle était pleine de rats, c'était une horreur, qui n'avait aucune valeur. Et ce qu'ils disaient, c'était que de fait, il y avait beaucoup d'architectes militants communistes comme Tchemetov. Ils faisaient leurs armes en banlieue. Ils construisaient un peu des expériences pas très bien construites et tout. Et après, ils faisaient des jolies maisons dans le 15e, quoi, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'expériences comme ça un peu bizarres. Et il y a eu un gros dilemme à Saint-Ouen pour savoir si on allait la détruire ou pas. Il y a des gens qui disaient, ouais, c'est un patrimoine. Et de fait, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette tour qui était à côté. En face d'où ils ont fait la ligne 14, en fait, maintenant. Et je vous dis, il était plein de rats, c'était mal construit, c'était pas adapté, quoi. En fait. C'est des choses qui ont très mal vieilli, comme la patinoire de Saint-Ouen. Ils avaient construit la patinoire avec des vitrages en plein soleil.
Et là, c'est marrant, je dis que l'idéologie de la lumière aussi, c'est marrant parce qu'ils mettent tous les gens plein sud derrière les baies vitrées. Maintenant, on dirait un balcon, ça serait mieux. Donc, on voit aussi les erreurs qui sont faites et l'idéologie qui sont portées. Il y a des moments de progrès et des moments, il y a des ratages. Mais même dans le domaine de la culture, la banlieue a servi parfois, et c'est très bien, de
laboratoire.
De laboratoire, comme ouais. Ça. Et une fois que l'artiste était vraiment, avait développé ses essais, il arrivait, il finissait sa carrière à Paris. C'est un peu caricatural que je dis, mais effectivement, la banlieue a servi de laboratoire tous les sens du terme. Bon ou moins bon, hein, évidemment. Mais il ne faut pas, à mon avis, non plus oublier la violence de la crise, comme ça, quoi. Avant, les municipalités n'ont plus les moyens de leur politique, mais même le chômage a fait des ravages. Et on n'a pas prévu non plus l'usure de tous les bâtiments.
Oui, je voulais juste ajouter aussi, je ne suis pas non plus une spécialiste de l'architecture, mais je me rappelle, quand je travaillais en Essonne, avoir entendu aussi le nom de cité de transit, en fait, qui était aussi fabriquée pour ne pas durer, en fait, qui était juste là pour accueillir les gens, pour donner une solution à la crise du logement, effectivement, mais de façon temporaire, et était destinée à être rapidement détruite pour être remplacée par autre chose. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été rapidement détruites. Donc il y a aussi la confusion aussi, quand on ne connaît peut-être pas la destination initiale, en fait, de l'immeuble qui a été construit et qui a été du coup dévoyé. On mélange ça avec des visions qui étaient plus à long terme et forcément, ces bâtiments n'étaient pas faits pour durer. Et le fait qu'ils durent, ils se sont dégradés beaucoup. Je crois qu'en Essonne, il y avait des cités comme ça qui n'auraient pas dû durer aussi longtemps, en fait.
Donc, je crois qu'il faut être attentif, parce que la banlieue en longue durée, elle a été le lieu d'où ont surgi des images noires et durables, avec un certain nombre de raisons. Et puis également, ça a été le lieu des utopies. Et comme le dit, comment tu t'appelles ? Je plaisante. Hein. Comme le dit Tanguy, et comme le dit, c'est un lieu de laboratoire. Vous parliez de Villetaneuse. Moi, j'ai enseigné à Saint-Denis. Je disais toujours que. Et alors, on avait des collègues qui disaient, qui n'aimait pas qu'on donne le sentiment que nous étions une université de banlieue. Alors on leur disait, mais on n'est pas une université de banlieue, on est une université en banlieue. Et puis le temps passant, ça c'était une présidente avant moi qui avait dit en banlieue et pas de banlieue. Et moi je suis arrivée quelques 10 ans plus tard, après cette collègue, Irène Sokolowski, et je disais, mais de toute façon, même le terme de banlieue, il a perdu de son efficacité. On est sur un front pionnier. Et on est sur un front pionnier avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire tout ce que nous montre le dernier film sur le périphérique. Je veux dire, c'est l'enfer pour les gens qui vivaient de part et d'autre, et un peu encore aujourd'hui. Et en même temps, c'est cette image de la modernité qui est évoquée dans tous les films. Mais c'est le lieu où s'invente quelque chose, et quelque chose qui peut être ce que sera demain et que l'on souhaite, hein, le film de 1953, ou que peut être le monde dont nous ne voulons pas, et que pour une part on détruit des dalles de Bobigny, etc. Donc je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire là dans les deux séquences, mais c'était encore peut-être plus tard, c'est de travailler sur la longue durée, et on voit bien que sur la longue durée, il y a bien des spécificités, des questions spécifiques à la banlieue, parce que c'est justement cet entre-deux, parce que c'est justement à la fois toute la misère du monde et en même temps le front pionnier de la modernité. C'est aussi la modernité politique. C'est dans ces banlieues que, pour la première fois, on a présenté des femmes aux élections municipales en 1929. Évidemment, celles qui ont été élues le tribunal administratif a cassé les élections. Mais donc il y a des tas d'innovations de toute nature. En même temps, comme le montre bien Tanguy, chaque ville a son histoire, donc évitons de tomber à notre tour dans des images plaquées. C'est un monde extrêmement complexe, et complexe pour ceux qui les dirigent, et d'ailleurs ça s'est mal fini pour beaucoup d'entre elles, et la misère du monde est de plus en plus là, pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement à la banlieue. Il y a vraiment une chronologie économique qui circule, tout ce qu'on vous a montré. Il y a une chronologie politique, ce temps où on pense que l'avenir radio est aux portes, hein, c'est en tout cas que quelque chose est possible. 36-46, qui est un temps très court, qui est un temps lumineux et très court. Et puis les spécificités de chacune des banlieues. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de montrer. Mais évidemment, ce ne sont que quelques. C'est un peu du poétisme. Et si on veut travailler sérieusement, il faut aller beaucoup plus loin et voir beaucoup plus de documents. Et comme vous le disiez, monsieur, des documents de toute nature.
C'était un montage, c'est un montage que vous avez fait. C'est
qui illustre une richesse.
Alors subjectif, qui se donnait pour tel.
Voilà. Donc ça montre la richesse de ces documents, la richesse du travail à faire. Et pour ne pas désespérer Billancourt ni Aubervilliers, ces municipalités ont permis à beaucoup d'enfants d'aller à la mer. Donc, Voilà, aussi, c'est réclamer une défense des classes populaires, un épanouissement des classes populaires. Elles sont maîtres chez elles, pensent-elles. Après, les coûts de l'agression ou les coûts des stratégies politiques seront lourds à payer, mais n'empêche qu'il reste quelque chose de ça, de cette utopie. Tu vois. On les voit dans les images et on voit dans les souvenirs de pas mal de personnes aussi, qui ont une fierté municipale. Il y a du patriotisme municipal qui est construit par le Parti communiste et qui a parfois laissé des souvenirs désagréables en termes d'architecture ratée ou de vivre ensemble, et parfois aussi à la fois de beaux souvenirs. Hein. Donc, je ne vais pas finir comme une parole de curé, mais ça a permis aux classes populaires de se défendre, en fait. Hein. De se défendre. Ils sont servis des partis, du syndicat, des municipalités comme arme de défense et comme arme de conquête. À partir du moment où c'était moins opératoire, pour un tas de raisons, et ils les ont délaissés. Moi, je vois, pour bien connaître certaines villes, il y a des vraies réussites architecturales aussi, pour revenir sur l'utopie. Il y a des vrais ratages et des vraies réussites. Et c'est effectivement, ça a servi de laboratoire. La banlieue est une utopie, un laboratoire, et pas seulement cette zone noire comme ça. Quoi. Ça l'est aussi.
Et votre montage d'une ceinture à l'autre, d'une ceinture politique et rouge à une ceinture routière, il y a quand même une violence, je trouve, dans cette construction du périphérique. On voit quand même il y avait certainement pas une fluidité entre Paris et sa périphérie avant le périphérique, hein. Bien sûr qu'il y avait déjà une frontière, mais là c'est vraiment quelque chose d'extrêmement...
Ce qui caractérise la banlieue française, en fait, la banlieue parisienne, quand même, quoi. La violence de la séparation entre le centre-ville et le pourtour. En même temps, ça change complètement aujourd'hui. On recouvre le périphérique, la banlieue, c'est comme si elle reculait, comme ça. T'as une conclusion sur ça, toi ?
Je me rappelle avoir discuté... Enfin, je sais pas, c'était... Ou c'est dans... Enfin, je sais plus. Bref, une femme qui disait... dans une des communes de la première couronne, mais je ne sais plus laquelle, qui disait on a longtemps cru qu'on viendrait parisien parce que on savait bien qu'en 1961 qu'il y avait toute une série de communes qui avaient été créées à Paris, et quand on a construit le périphérique, on a compris qu'on serait plus jamais parisien.
On en reste là.
Je te remercie.
Ah oui. Vraiment pas fait grand chose. Et en tout cas, donc, moi je remercie vraiment l'équipe de Cinéarchives, Mémoire Filmique, et puis Tanguy et Daniel pour leur accompagnement savant et vivant de tout cela. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.